L'Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Allez, bonne santé, les deux.
Le lancement du satellite soviétique Sputnik en 1957, le premier vol habité de Yuri Gagarin en 1961 ou encore les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong en 1969, voilà les images qui viennent en tête lorsque l'on évoque l'histoire de la conquête spatiale. Cette histoire qui prend racine dans l'Allemagne nazie des années 30 est pourtant bien plus complexe et l'idée d'envoyer des humains dans l'espace n'a en fait rien de naturel. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont en effet activement participé à la construction d'une astroculture afin de rendre l'exploration de l'espace désirable auprès de la population et de justifier les sommes colossales investies dans les programmes spatiaux aux objectifs avant tout militaires. Aujourd'hui, les acteurs privés du New Space, à l'image d'Elon Musk et SpaceX, s'ancrent dans un paradigme astrocapitaliste, au service notamment de la conquête de Mars, comme l'a réaffirmé Donald Trump lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier. Mais comment s'est construite cette astroculture et comment a-t-elle servi le mythe de la conquête spatiale? Quel rôle ont joué les ingénieurs nazis dans l'émergence des premières technologies spatiales? Et quelle est la pertinence du vol habité aujourd'hui? Pour répondre à toutes ces questions et plonger dans les mystères de l'espace, nous recevons aujourd'hui Irénée Regnault. Pardon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es consultant et chercheur associé au laboratoire COSTEC de l'Université de Technologie de Compiègne et tu es l'auteur avec Arnaud Saint-Martin de l'ouvrage « Histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space » paru aux éditions La Fabrique en 2024. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans la Happy Hour scientifique.
Ben, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Et évidemment, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Luna et Chiara qui nous rafraîchiront avec quelques gorgées de science en début d'émission.
Salut.
Bonsoir.
Sacha qui m'accompagnera pour l'interview.
Salut père.
Et Alice et Chiara à nouveau qui nous ont préparé un super caps ou pas caps.
Et oui.
Et à la réal, on a Joey et qui sera donc à la réalisation avec Jocelyn.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
L'exploration spatiale fait rêver jusqu'aux confins de la galaxie et au-delà. Pourtant, un endroit qui fascine beaucoup de passionnés du sujet, c'est la planète Mars. Elle est à la fois la planète de notre système solaire qui ressemble le plus à notre chère maison et en même temps, elle est quasiment inaccessible. Je dis inaccessible parce que, pour vous donner une idée, en 1969, les membres de la mission Apollo 11 avaient mis 72 heures à atteindre la Lune. Aujourd'hui, un voyage aller pour Mars prend environ entre 250 et 350 jours. Pourtant, de nombreuses personnes planchent sur la question depuis un paquet d'années et peu à peu arrivent à obtenir de nouvelles informations. Certaines des plus récentes que l'on ait obtenues proviennent de la météorite dénommée Black Beauty. Elle a été expulsée du sol martien il y a plus de 10 000 ans à la suite d'une collision avec une météorite. Et a fini par atterrir dans le désert du Sahara il y a environ un millénaire, avant qu'un de ses fragments ne soit découvert en 2011. Récemment, une équipe de scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle, de Sorbonne Université, du CNRS et de l'Université de Lille et de l'Université de Paris-Saclay ont réussi à mettre en évidence la présence de granit dans la météorite. Il s'agit de la roche que l'on trouve le plus sur les continents terrestres. Cette découverte nous amène à creuser l'histoire de la géologie de la planète rouge.
Malgré le fait que les scientifiques n'observent pour l'instant que Mars à distance ou via les fragments d'une météorite, ils se préparent déjà à un voyage martien. Le Mars Desert Research Station est un laboratoire scientifique créé pour être une réplique conforme de ce qu'on l'imagine être une station martienne. Située en Utah, à l'ouest des États-Unis, la station accueille régulièrement des équipes de recherche dans un minuscule espace de 9 mètres carrés et d'une hauteur d'environ d'un étage, et les membres de l'équipage sont complètement coupés du monde extérieur avec très très peu de Wi-Fi pour communiquer. Depuis 2001, plus de 270 équipes ont vécu des séjours d'une durée approximative de 3 semaines. Et actuellement, c'est 7 étudiants de l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace de Toulouse qui sont en mission pendant un mois dans la station. Donc depuis mi-février jusqu'à mi-mars, ils devront réaliser des expériences variées comme le test d'une intelligence artificielle qui fait office d'assistante de vie ou la réalisation d'un rover grâce à une imprimante 3D ou encore un dispositif psychologique, de sophrologie et de médiation, visant à améliorer le bien-être des astronautes. Et aussi de la botanique, avec la culture du micro-pouce, dont l'objectif est de subvenir aux besoins des passagers. D'après leur dernier rapport, datant d'il y a 8 jours, tout se passe bien, malgré le fait que la commandante du Crew 311, Erin, a commencé le séjour malade avec de la fièvre, la pauvre. Mais heureusement, ils peuvent sortir de la station en cas d'urgence, contrairement à une vraie station martienne.
Mais les scientifiques n'organisent pas simplement des jeux grandeur nature dans des environnements vaguement similaires à la planète voisine. Leurs équipes envoient aussi des instruments sur place, comme le rover Perseverance de la NASA, qui se trouve actuellement dans le cratère Jezero. Grâce à ces prises de données, des équipes de scientifiques internationales, dont des équipes du CNRS, ont pu observer des roches, pas comme les autres, et notamment un minéral, la kaoline. Alors, est-ce que quelqu'un ici a une idée de ce que c'est la kaoline ? Interrogation surprise.
Zéro idée.
Aucune idée.
Non.
Pas de la lessive, moi, j'aime ça.
Non, c'est une argile qui se forme quand l'environnement alterne entre hydratation et déshydratation. Ces roches martiennes, ceci, se sont formées il y a entre 3,8 et 4 milliards d'années et ont été soumises à des températures très élevées. Tout cela nous montre à nouveau que Mars a une vie géologique complexe, mais aussi qu'elle a connu des conditions proches de celles que l'on a pu trouver sur Terre.
Et les scientifiques de la NASA s'intéressent en effet énormément à la formation géologique de Mars et ils ont récemment mis au point une intelligence artificielle qui permet de modéliser la carte de l'évolution de la surface glaciaire de Mars et les estimations sont approximativement jusqu'en 2033. Et cette intelligence artificielle s'ajoute à la liste d'une vingtaine d'IA environ qui permettent de réaliser toutes sortes de tâches. Donc ça va du monitoring de Perseverance Rover dont on vient de parler au management des missions spatiales. De quoi ravir les investisseurs et les géants de la tech. Et en attendant qu'Elon Musk aille sur Mars ou prenne carrément le contrôle de Radio Campus Paris, on redonne la parole aux animateurs de l'émission, Sacha et Péa.
Merci beaucoup Luna et Chiara pour ces gorgées de science. Maintenant je me tourne vers toi, Irénée, et avant de commencer l'interview, on est parti pour quelques shots à l'invité. Alors Irénée, on est dans le bar, c'est la happy hour, qu'est-ce que tu commandes ?
Probablement une IPA.
T'es plutôt soirée astro en pleine campagne ou soirée bistro en pleine ville ?
On peut faire l'une et l'autre.
Entre te retrouver coincé avec Elon Musk dans l'ISS pendant 6 mois ou ne plus jamais voir les étoiles, tu choisis quoi ?
L'ISS pendant 6 mois, clairement.
Si tu étais obligé de vivre sur une autre planète, laquelle tu choisirais ?
La Terre. Désolé, pas d'autre réponse.
Selon toi, l'astrologie, est-ce que ça fait partie de l'astroculture ?
Potentiellement, pourquoi pas. Ouais.
Au ciné, tu préfères voir Star Wars ou 2001 ou l'Odyssée de l'espace ?
Plutôt 2001.
Au distributeur, plutôt Mars ou sneakers ?
Mars et ça repart.
Réussir sa vie, c'est plutôt avoir une Rolex avant 50 ans ou une étoile à son nom avant 50 ans ?
Ni l'un ni l'autre, personne n'a réussi sa vie tout seul.
Merci beaucoup Irénée. Alors on est parti du coup pour l'interview et pour commencer, je voulais te demander comment tu en es venu à travailler donc sur le sujet de l'espace et quel est ton rapport de manière générale à ce sujet-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne depuis l'enfance ? Voilà, raconte-nous un petit peu comment tu en es venu à travailler là-dessus.
Moi, à la base, je suis un chercheur qui travaille plutôt sur les questions numériques, intelligence artificielle, etc. Et j'attaque beaucoup les sujets par les controverses. Donc là où ça ne marche pas, là où c'est en panne, là où les gens râlent, bref, là où la technologie, en fait, offre des frictions, en fait, par rapport au social, puisqu'elle n'est jamais vraiment séparée. Et j'ai un rapport plutôt fasciné, de toute façon, aux technologies, clairement, et aux technologies de l'espace, donc ce qu'on appelle en fait plus communément l'astronautique, fasciné et en même temps critique, on se fait forcément rattraper par les sciences sociales derrière ça. Et il se trouve que je me suis intéressé aux questions spatiales au moment où elles ont fait controverse, en tout cas publiquement, un petit peu avant aussi, parce qu'il y a toujours des idées de représentation, d'imaginaire qui sont très forts dans les questions spatiales, les questions numériques et qui se rejoignent d'ailleurs, qui se concrétisent dans des personnages, pour Elon Musk pour ne pas le nommer. Je pense que les déploiements des constellations de satellites d'Elon Musk à la fin des années 2010, ces fameuses traînées qu'on voit dans le ciel, ont vraiment cristallisé quelque chose chez moi. J'ai rencontré mon co-auteur, Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue des sciences au CNRS, aujourd'hui député de la Nation, qui travaille sur ces sujets depuis 10 ans. Et donc on s'est retrouvés sur ce projet commun de faire un livre qui soit un livre un peu tournant, un livre de référence en tout cas, qui vienne doucher l'enthousiasme spatial de principe et le re-raconter de façon historique.
Et justement, plongeons un petit peu dans ce livre, justement, le sous-titre du livre c'est « Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space ». Excusez-moi. L'histoire de l'exploration spatiale prend en effet, comme je le disais en introduction, ses racines dans l'Allemagne nazie des années 30, avec notamment la construction des fameux missiles fusées V2. Est-ce que tu pourrais raconter justement cette origine nazie de l'exploration spatiale, qui est quelque chose qui peut-être est assez méconnu, et comment s'est opérée la transition vers l'exploration spatiale comme on la connaît plus avec les États-Unis dans les années 50-60 et après?
Alors, en fait, avant je vais répondre à cette question évidemment qui est essentielle. L'objectif de ce livre a été réécrire, en tout cas écrire à partir de sources en fait principalement historiographiques, sociologiques. Donc en fait, c'est l'écriture, elle était déjà là. Hein. C'est aussi beaucoup un exercice de synthèse. L'histoire de la conquête spatiale telle qu'on la connaît tous et toutes, qui fonctionne beaucoup par anecdote. Hein. Donc c'est-à-dire Sputnik 1957, les fameuses dates que vous avez citées, les grandes premières soviétiques jusqu'à l'arrivée sur la Lune. Et puis si on tire le fil, on a quelques navettes, quelques sondes jusqu'à Thomas Pesquet aujourd'hui pour le cas français. Mais ça méritait d'être retraduit. Scientifiquement, industriellement, montrer quelles étaient les origines plus profondes de cette industrie, d'où est-ce qu'elle vient en fait, et même de ses représentations de l'espace. Parce que l'espace, c'est pas du tout quelque chose de nativement habitable, par exemple. Il faut se figurer l'idée que ça l'est. C'est la voûte céleste, c'est le ciel, et puis un jour, ça devient un territoire à conquérir. Bon, bref. Pour répondre à la question, il nous a semblé intéressant, comme ça a été le fait sur d'autres industries, de revenir aux racines industrielles, c'est-à-dire au moment où ça se, vraiment où ça se concrétise, où les imaginaires qui sont là depuis déjà la fin du 19e siècle, Jules Verne et compagnie, l'idée qu'on va pouvoir, encore une fois, y habiter, des mouvements culturels, par exemple en France, on a un mouvement qui s'appelle le Merveilleux Scientifique, des dessins, des émissions de radio comme aujourd'hui, enfin bref, tout un tas de choses en fait qui vont donner envie d'y aller, qui vont à un moment donné, construire progressivement cette astroculture. Mais il y a quelque chose de spécifique au début des années 30 quand même, qui est tous ces groupes de fuséologues amateurs, on pourrait dire, qui existent à la fois en Allemagne, en France, aux États-Unis, qui pour certains d'entre eux vont susciter l'intérêt de l'armée en fait. Hein. Principalement, en Allemagne nazie, dès le début des années 30, avec certaines grandes figures sur lesquelles on revient, Werner von Braun, notamment, Rudolf, Kammler, qui vont ensuite participer à construire cette industrie qui est une industrie de missiles. Alors, on est en train de parler de gens qui font des armes. Tout ça va finalement prendre racine dans une industrie qui va se croiser avec le taylorisme et le fordisme derrière. Hein. Donc, en fait, dès la fin des années 30, vous allez avoir une usine, une énorme usine au nord de la Baltique qui va s'appeler Penmundo, à l'intérieur de laquelle beaucoup d'ingénieurs nazis, mais aussi quelques concentrationnaires, vont fabriquer en série des missiles. Cette usine va être détruite en 1943, bombardée par la Royal Air Force anglaise, enfin britannique, et on va l'enterrer, en fait, enfin, les Allemands vont l'enterrer à Dora Mittelbau, dans une usine mine qui va juster le camp de concentration de Buchenwald, et faire travailler comme ça à la chaîne des dizaines de milliers de concentrationnaires. Ce ne sera pas que le cas dans l'astronautique, hein, d'autres industries qui ont été concernées par ça. Mais en tout cas, vraiment, c'est un moment où on va où il va y avoir un tournant dans cette industrie qui va passer de l'idée peut-être d'aller fabriquer des choses qui vont dans l'espace à l'idée de le faire. Et donc on va fabriquer ces fameux V2. En réalité, il y aura aussi du V1 jusqu'au potentiel V7. Enfin, bon, je ne vais pas m'étendre, mais en gros, ce sont des missiles qui passent par l'espace et qui, parce que forcément il n'y a plus de frottement dans l'espace, vont permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite et de tuer des gens. En réalité, ils auront tué beaucoup plus de gens à l'intérieur de Dora, hein, donc encore une fois 20 000 morts, dont 5 000 Français, qu'à Anvers ou Londres où ils auront été lancés.
Oui, c'est vraiment une histoire qui est très liée à l'industrie allemande et à la militarisation. Et justement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une opération qui s'appelle l'opération Paperclip, qui est une extraction des soldats ingénieurs allemands vers les USA. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, la création de la NASA en fait vient un peu de ces opérations?
La création de la NASA vient un peu plus tard, mais je vais y venir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a ce que je dis là sont des choses qui sont en tout cas dans le milieu assez connues en fait. La vie de Werner von Braun a déjà fait l'objet de plusieurs documentaires, vous en trouverez des très bons sur Arte, la chaîne parlementaire, etc. Donc effectivement, il y a exfiltration des ingénieurs allemands qui en fait choisissent de s'exfiltrer eux, pour certains d'entre eux, pour les plus connus. Donc von Braun et son équipe de 128 collègues partent avec les Américains, parce que les Français, c'est quand même une mauvaise option pour un nazi à ce moment-là. Et les Soviétiques, on n'est toujours pas non plus complètement sûr de ce qu'ils vont faire de vous. Donc ils partent avec les Américains, se retrouvent d'abord au Texas, ensuite ils passent en Alabama, ils vont aller à Huntsville. C'est Rocket City, hein, Huntsville, hein, c'est là où vraiment les Américains vont copier en fait, les savoir-faire des ingénieurs nazis. Les Français vont en récupérer quelques-uns également, avec, ils auront une opération à leur nom, les Soviétiques aussi. En France, tout ça va terminer à Vernon, hein, dans l'Eure, donc en Normandie, dans des endroits où on teste encore des fusées, notamment d'une société qui s'appelle MySpace, qui est filiale d'ArianeSpace. Donc ça, c'est intéressant de voir encore la filiation historique encore aujourd'hui. On va implanter les mêmes souffleries, par exemple. On va calquer Peenemünde 2 à Vernon. Ce qui est moins évident, ce qui est moins dit, c'est que, notamment pour le cas états-unien, ces ingénieurs-là vont insuffler une forme de culture, mais surtout prendre racine dans un endroit qui va bien les accueillir. On est en Alabama, au détour de la guerre, on est en plein loi Jim Crow, on a des industries qui se construisent à foison, et à côté, il y a des champs de maïs avec des personnes noires qui travaillent. C'est ça l'ambiance, quoi. Et donc, en fait, la grève prend. Et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans le livre, c'est que c'est pas un accident de l'histoire, en fait. Ça fait partie de l'histoire des sciences et des techniques, pour le dire simplement. Mais il y a un sujet politique là-dedans qui, pour finir, a encore une importance aujourd'hui, puisque quelques-unes parmi ces grandes figures, dont Wernher von Braun, vont longtemps être adulées jusqu'à aujourd'hui, chez SpaceX. En tout cas, c'était ce qui était écrit dans sa précédente biographie, pas la dernière. Il y avait encore, il y a quelques années, une salle au nom de Wernher von Braun, qui était un nazi patenté, je le répète parce qu'on m'a souvent reproché de le dire, mais c'était quelqu'un qui, dans les faits, a participé au système nazi.
Et justement, avec ces fameuses missiles fusées V2 qui seront ensuite reconvertis pour faire notamment la fusée Saturn V qui ira sur la Lune, cette reconversion, et même cette reconversion des outils missiles fusées en fusées, et même reconversion de Wernher von Braun en ingénieur spatial, ça témoigne de manière générale d'un lien, d'un héritage militaire de la conquête spatiale qui a d'ailleurs perduré pendant la guerre froide et après. Est-ce que tu peux nous parler des liens qui persistent aujourd'hui entre armement, ingénierie spatiale, entre parler de la militarisation de l'espace, et voilà, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cet héritage militaire?
Alors, il ne faudrait pas se figurer que l'industrie spatiale est la seule dans cette situation. Quand vous avez un effort de guerre, comme ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, et même la première avec la chimie, vous qui travaillez sur les questions scientifiques, vous savez que quand on a un effort substantiel, plusieurs points de PIB, dizaines de points de PIB dans plein de trucs, il finit par en sortir des choses. Donc on ne veut pas verser dans une forme de déterminisme qui dirait que les fusées étaient nazies. Il existait des fusées avant, d'une part, et on le dit dans le livre, et d'autre part, les fusées sont toujours utiles pour tout un tas de sujets. En revanche, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de repartir de ce récit d'un spatial qui serait civil et doté d'une composante militaire. Non, nous, ce qu'on veut montrer, et ce que l'historiographie montre, en fait, c'est que c'est une industrie militaire qui, par endroits et à certains moments, se civilise. Notamment au début des années 60, à des moments particuliers où le droit spatial se crée. Donc c'est une industrie de missiles fusées qui, au détour des années 50, devient consubstantielle à la question de la bombe nucléaire. Donc on va mettre des bombes nucléaires au-dessus des missiles, au-dessus des Soyouz en URSS, au-dessus des Titan, Jupiter, Atlas, tous ces noms bizarres qu'on aura aux États-Unis de leur côté. Et on va fabriquer ce qui s'appelle des missiles balistiques intercontinentaux. Et on va construire des milliers de silos. Donc les Américains vont, c'est ce qu'on dit dans le livre, littéralement vivre aux portes de l'enfer à un moment où pourtant un truc absolument fantastique va apparaître progressivement et ça va s'appeler le vol habité.
Et on va faire une petite pause musicale après cette première partie d'interview. On s'écoute tout de suite Space Song de Beach House. Et on va s'écouter Space Song de Beach House.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Et Irénée, dans le chapitre 2 du livre qui est intitulé « L'astroculture à la conquête des esprits », tu parles de comment a été fabriqué socialement et culturellement le consentement à aller dans l'espace. Est-ce que tu peux définir ce que c'est l'astroculture ?
L'astroculture, effectivement, c'est le deuxième chapitre du livre. C'est disons, une notion qui est forgée par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Gephardt, mais peu importe, et qui essaye de montrer comment sont construites les représentations de l'espace, pour le dire très simplement. L'objectif de ce chapitre a été de montrer une tension, en fait, entre, d'une part, des arguments naturalisants, biologisants, qui font passer la conquête de l'espace. Alors, conquête, mot piégé, sur lequel on peut revenir longuement, mais justement, conquête, parce que référence à la question de la frontière aux États-Unis qui est très forte, à la question de la destinée manifeste.
Donc, de la conquête de l'Ouest aussi.
Conquête de l'Ouest, c'est ça, l'idée qu'on va aller peupler des territoires prétendument vierges, c'est le wilderness, quoi, l'étendue sauvage, etc. Donc il y a cette idée qui est très forte. Donc ça repose sur des mythes, mais si ces mythes sont là, c'est bien pour offrir une forme de justification. D'autre part, d'autres types d'arguments qui sont éculés, mais enfin, qui ressortent quand même tout le temps dans le spatial, c'est dans l'ADN de l'humanité, etc., etc. Donc, l'humain serait tout entier poussé vers l'idée d'aller conquérir
de nouveaux
espaces.
C'est naturel, en fait.
C'est naturel, exactement. Et de l'autre côté, en fait, il y a quand même des batailles au Congrès en permanence pour aller trouver des budgets pour justifier le fait, surtout au début des années 60, d'aller dans l'espace et de continuer à y aller. Et donc, l'astroculture intervient dans cette tension pour formaliser un certain nombre de réflexes à travers tout un tas de choses qu'on décrit, à travers les médias, à travers des documentaires auxquels va participer par exemple Werner Von Braun avec Disney, donc on parle beaucoup de cette idée de Disneylandisation de la conquête spatiale, à travers aussi une culture matérielle en fait, hein, les jouets, les t-shirts, jusqu'au Lego qu'on a quand on est enfant de la navette spatiale. Donc c'est ça aussi, l'astroculture, la science-fiction va avoir son rôle à jouer aussi là-dedans, qui permet de justifier cette épopée du vol habité, qui est une petite partie du spatial en réalité. Et pour terminer, peut-être ce qui est important de voir, c'est que c'est vrai qu'on on a la sensation d'un certain unanimisme, en fait, hein, au détour des années 60, sur ce programme Apollo qui prend absolument toute la place. Mais en réalité, il n'y a jamais d'adhésion populaire. Dans les sondages, les Américains, les Américaines sont pas franchement fans à l'idée de dépenser 5% du PIB pour Apollo. On voit pas trop l'utilité. Il y a un petit pic en 1969 parce que quand même on fait la nique aux Soviétiques. Et encore aujourd'hui, quand on regarde dans les sondages, il y a toujours pas d'unanimisme autour de la conquête de Mars, par exemple.
Et du coup, en tant qu'exemple de cette mobilisation de l'astroculture, dans le livre, vous parlez notamment des lobbies pro-espace, les Space Advocates, qui ont contribué, comme tu le disais, à faire adhérer le grand public à la course à l'espace, notamment avec les missions Apollo dans les années 50-60, qui mobilisent une énorme quantité d'argent. Est-ce que tu peux donner des exemples de ce lobbying pro-spatial ?
Oui, alors les lobbies pro-espace vont se constituer comme la plupart du temps dans les années 70, même si ce sont des figures qui vont apparaître avant, hein, et qui vont avoir un rôle à jouer en fait dans l'establishment politique pour défendre certaines causes. Ils vont être assis souvent sur des chercheurs reconnus, renommés, des ingénieurs comme Werner Von Braun. On va avoir par exemple la L5 Society qui est un lobby pro-espace, la Mars Society qui est sans doute le plus intéressant pour nos auditeurs puisque celui-là a une traduction européenne et française. Il y a une Mars Society en France, donc des gens qui se réunissent avec un fondateur à la tête de ce truc-là qui s'appelle Robert Zubrin et qui est l'inspirateur d'Elon Musk. Et donc, ces gens vont avoir un rôle à jouer dans la détermination des choix de la space policy américaine. Ils vont parfois inspirer des programmes. Parfois, ils vont aussi empêcher la survenue d'autres programmes. Par exemple, la L5 Society va être très contre le traité de la Lune en 1979 qui va du coup pas être, pas que à cause de ça, mais qui ne sera pas ratifié par les grandes puissances, parce que c'est un truc en gros un peu trop communaliste, pour ne pas dire communiste.
Est-ce que tu peux nous expliquer juste ce que c'est le traité de la Lune ?
En fait, dès le début des années 60, il y a une construction diplomatique du spatial. C'est important. Au début des années 60, les Américains et les Russes font quand même un petit peu n'importe quoi dans le spatial. Hein. C'est-à-dire que Sagan a l'idée de faire exploser une bombe atomique sur la Lune, on fait exploser des bombes atomiques dans l'espace. L'idée, c'est un peu le signal, quoi, si vous voulez, c'est de signaler sa puissance symbolique, politique, technologique, etc. Donc il y a un mouvement de pacification qui est un mouvement en fait, qui va permettre de préserver l'environnement spatial, hein, ce qu'on appelle plus communément un apprentissage environnemental, peu importe. Donc on va avoir un traité en 1967 qui va notamment interdire le fait de mettre des armes de destruction massive en orbite, d'autres traités entre-temps sur le sauvetage des astronautes qui reposent un peu sur le droit de la mer en réalité, et en 1979 une tentative de traité avorté qui est le fameux traité de la Lune, il a un nom un peu plus long, qui inspire une vision un petit peu plus communaliste justement des ressources célestes, et c'est le dernier traité qu'on a sur le spatial. Si on retire de ce package que je viens de présenter la question de l'armement, c'est-à-dire quand même, ce que, à titre personnel, je considère comme étant aussi du droit proche du spatial, c'est-à-dire les traités SALT, START, qui vont aller réduire les armements nucléaires, qui sont aussi des armements de l'espace.
Et on parle aussi, d'ailleurs, pour continuer dans cette idée, on parle aussi maintenant plutôt du New Space, donc c'est une forme de nouvelle ère de l'exploration spatiale avec une entrée massive de nouveaux acteurs privés, de nouvelles technologies innovantes pour rendre l'espace encore plus accessible, encore plus rentable, et de continuer cette construction de l'astroculture. Et on pense évidemment à Elon Musk et son entreprise SpaceX ou son réseau de télécommunications Starlink. Quel impact a selon toi la multiplication de ces acteurs privés sur la vision véhiculée de l'espace, de l'exploration spatiale, voire de la conquête spatiale aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui?
Alors, ce que ça change, c'est que ça radicalise quelque chose qui était là en jachère depuis longtemps. Nous, ce qu'on fait avec cette histoire de la conquête spatiale, c'est qu'on remonte aux racines de ce fameux New Space, donc New Space année 2000, hein, le nouveau spatial, en opposition au Old Space, donc le vieux spatial. Donc, le vieux spatial, c'est les agences publiques, la NASA, et le New Space, c'est en gros les entreprises privées. Bon, en réalité, ce sont plutôt des modalités de contractualisation qui changent. Elon Musk a eu l'occasion de bénéficier de 26 milliards de dollars depuis le lancement de l'entreprise en 2002. Donc on est sur une entreprise qui est finalement assez administrée. On est toujours dans du Old Space, mais on leur a un peu lâché la bride en termes de programmation de ce qu'il faudrait faire. On le voit aujourd'hui avec Musk qui va pleinement sur Mars. Donc c'est plutôt une radicalisation d'un processus au long cours qu'un véritable changement, puisque l'État est toujours complètement derrière. Oui. En termes de business, bon, c'est toujours un peu difficile à calculer, puisque Musk a plusieurs entreprises, 11 au total, mais dans le spatial, principalement deux, que sont SpaceX, le lancement, Starlink, les télécommunications, donc aujourd'hui 7000 satellites en orbite. On n'a pas exactement l'équation économique de ce conglomérat. Ça pourrait être rentable, mais il ne faut pas oublier que c'est perfusé dès le départ à la subvention publique. Ça reste des défis d'ingénierie importants. Je pense que sur un terrain un peu plus normatif, le problème aujourd'hui, c'est que ce sont aussi des armes, entre guillemets. Hein. On voit bien Starlink aujourd'hui qui pèse dans la balance, pour parler un peu d'actualité, sur le deal qui est en train d'être signé avec l'Ukraine et les matières premières dans le cadre du pseudo-résolution du conflit. On voit bien que là, on a quand même un acteur privé, avec le Pentagone derrière, hein, mais qui a pris une ampleur qui est considérable, et ça, on n'avait pas connu, effectivement.
Et il n'y a pas de législation qui permette un peu de réguler le travail de ces entreprises-là, ou même la mise en orbite comme ça
C'est une bonne question, et c'est la question que tout le monde se pose, en fait, dans le milieu. Et, enfin, la réponse est non, en fait. Hein. Il existe, en dehors des traités, qui ne prévoient pas ces cas-là. Les traités ne disent pas, n'imaginez pas qu'on allait avoir l'équivalent de autant de satellites lancés en 3 ans ces 3 dernières années que ce qu'on a lancé depuis le début de l'ère spatiale. Là, on est à 10 000 satellites en orbite, 7 000 appartiennent à SpaceX. À terme, c'est 12, puis 42 000, et ça, sans compter les autres constellations. Donc, ça régénère tout un tas de problèmes, de débris, de retombées dans l'atmosphère. Parce que les satellites, ils retombent. Donc
on parle de pollution spatiale aujourd'hui.
Il y a une forme de pollution spatiale. Donc, il n'y a pas de régulation. La seule régulation qu'on a, c'est une régulation marchande et technique. Donc, on a une régulation à travers l'IUT, donc un organisme qui gère les télécommunications au niveau mondial et qui gère les fréquences, en fait, donc les conflits de fréquences. Donc, non. Alors, pour autant, c'est pas le Far West, dans le sens où les États sont comptables de ce qui se passe en orbite. Donc Musk, tout ce qu'il fait, l'État américain est comptable. Mais si l'État américain est derrière lui et le soutient, on a beau être comptable, on fera pas grand chose dans les arènes de la diplomatie spatiale.
Puis après, il y aura une forme de limite aussi, où à un moment, il y aura peut-être trop de satellites dans l'espace, il y a peut-être des risques de collision. Est-ce que c'est une limite pratique?
Alors, il y a de la place. Il y a de la place dans l'espace. Tout dépend des orbites, tout dépend des satellites, tout dépend de plein de trucs. Hein. Et tout dépend aussi des systèmes d'intelligence artificielle qu'on met pour qu'ils puissent s'éviter. C'est aussi des conflits un peu géopolitiques. Hein. Par exemple, quand un satellite Starlink qui coûte quelques centaines de milliers de dollars peut percuter un satellite climatique européen qui va en coûter des dizaines de millions, qui se déplace? sachant que quand vous vous déplacez, vous consommez des ergols, de l'essence, quoi, et vous perdez quelques années de vie. Donc on est sur des sujets un petit peu comme ça. Donc oui, il y a la possibilité que des fragments de satellites, quels qu'ils soient, ou autre chose, se percutent. La question d'ailleurs, c'est pas tellement si ça va arriver, mais quand. Ça s'appelle l'effet Kessler, c'est un effet boule de neige. Vous avez des fragments qui explosent les uns dans les autres, ça fait encore plus de fragments, puis ça fait un effet boule de neige. Et là, il y a effectivement aujourd'hui une fuite en avant de ce point de vue-là, des solutions qui sont apportées par l'astrocapitalisme lui-même. Alors, on le définit un peu plus dans le livre. C'est-à-dire, par exemple, on invente des satellites qui vont avoir des treuils, des filets, des lasers pour rattraper les autres. Mais on sent bien que, quelque part, ça ne va pas suffire. Et il est possible, effectivement, qu'il faille arriver à la catastrophe pour qu'il y ait un certain de régulation.
C'est avec une reprise d'imaginaire très science-fiction aussi, hein, dans tout ça qui fait partie de l'astroculture.
Oui, voilà. Oui. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il y a quand même des vrais dangers, dans le sens où aujourd'hui, un satellite se fait exploser par un morceau de quelque chose quelque part. Si vous n'êtes pas en mesure d'attribuer ce qui peut ressembler à une attaque, vous avez potentiellement des conflits géopolitiques importants derrière. Vous explosez un satellite, je ne sais pas, scientifique, de télécommunication, ce sont des actifs stratégiques, qu'est-ce que vous faites ?
Et merci beaucoup. Et avant de continuer l'interview, on passe à un petit extrait d'une prise de parole de l'astrophysicien Aurélien Barraud sur la figure de Thomas Pesquet sur la question « Pourquoi aller dans l'espace ?»
En fait, c'est marrant parce que l'espace, c'est tellement ancré dans nos imaginaires comme quelque chose de mélioratif, alors qu'en réalité, je crois que ça correspond à l'exhibition la plus vile et la plus veule de notre technoprédation. Jaloux de Thomas Pesquet. Non mais ce sont des marionnettes marketing, qu'on ne nous parle pas de héros. Les héros aujourd'hui, ce sont les Indiens qui essayent de sauver la forêt, ce sont les gens qui essayent de survivre sous les bombes dans notre indifférence. Ce ne sont certainement pas ces marionnettes qui vont faire quoi ?
Alors c'est Roland Barraud qui qualifie donc Thomas Pesquet de marionnette marketing et qui vont faire quoi ? C'est vrai ça ? Pourquoi aller dans l'espace ? Pour élément de réponse dans un radio-reportage réalisé par Sian Claire et Marie Scharf qui s'appelle « Le poids de l'apesanteur ».
Défaillance technique. La tentative de rapatriement de la capsule spatiale a échoué. Lancement d'une procédure de secours. Temps avant la prochaine tentative, 3 mois, 5 jours et 12 heures.
Oh putain, ça va être long.
Allô ?
Bonjour Monsieur Bonnevido, c'est Marianne. Vous étiez mon professeur d'astrophysique il y a quelques années.
Ah ben ça alors, je suis content de t'entendre. Mais ça se passe bien là-haut dans l'espace ?
Bah justement, c'est pour ça que je vous appelle. Je sais pas si vous avez suivi les actualités, mais je suis encore coincée là-haut pour un bout de temps. Et c'était pas du tout prévu. Et tout ce temps à gamberger, je commence à me poser des questions.
Ben oui, d'accord, ben bon, on peut en discuter. Quelles questions tu te poses alors ?
Alors voilà. J'ai attendu toute ma vie de pouvoir voir la Terre depuis l'espace. Et c'est magnifique. Mais maintenant que je suis là, je ne pense plus qu'à revenir. En fait, je ne comprends pas trop l'utilité de ma présence ici. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je pense que, par exemple, la vue de la Terre de l'espace que l'on a eue, c'est un vrai électrochoc écologique en fait. C'est-à-dire tous les astronautes, dont j'en ai rencontré quelques-uns, s'étant extraits d'un milieu dans lequel ils avaient l'habitude de vivre, qui était très confortable, ils étaient dans un milieu hostile et regardaient vers le bas en disant « Oh là là, vivement que je retourne là-bas !» Parce qu'en fait, ils se sentaient terriblement vulnérables. Et en même temps, cette vision d'un globe, en plus il a de belles couleurs, c'est un paradis. Enfin, si on voudrait décrire le paradis, depuis l'espace, ben, c'est la Terre. C'est ce qui entretient le mythe de l'espace. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on aimerait aller dans l'espace, voir la Terre comme une boule ronde. Mais en fait, c'est juste pour avoir une impression personnelle. Mais on ne gagne pas grand-chose. D'ailleurs, les cosmonautes qui reviennent sur Terre, beaucoup sont tellement bouleversés parce que, enfin, dans leur conception, qu'ils se réadaptent très très mal. Ils ont d'énormes problèmes psychologiques souvent. D'abord, de ne pas pouvoir parler de ce qu'ils ont vu avec les autres qui ne l'ont pas vu, enfin des choses comme ça. On pourrait dire que c'est comme des expériences. Une fois qu'elles ont été faites, ben, on les arrête, on n'a pas besoin de les répéter.
Oui, mais c'était mon rêve, le rêve de tellement de gens.
On n'aimerait pas tuer ce rêve, finalement. Mais on est obligé de le tuer un petit peu, c'est-à-dire de dire, c'est bien qu'on ait envoyé quelques hommes dans l'espace, quelques femmes dans l'espace, mais on ne va pas faire ça pour 7 milliards de gens. Et sachant qu'on a énormément de problèmes à résoudre sur un globe sur lequel nous sommes, qui est extrêmement réduit et dans lequel se sont développés des problèmes incroyablement complexes, il faudrait conserver nos énergies, notre énergie, pour résoudre ces problèmes-là.
Mais ça sert à rien, alors, d'envoyer des astronautes dans l'espace ?
Mais ça ne répond à aucune question importante de l'humanité, on est bien d'accord. Le fait qu'on ait envoyé des hommes dans l'espace, c'était une forme de curiosité. Aussi, beaucoup d'implications politiques, parce qu'en fait, l'occupation de l'espace n'a jamais été très très séparée du contexte militaire. Et on a voulu surtout envoyer des fusées dans l'espace pour envoyer des bombes dans l'espace. Et ensuite, après, on s'est amusé un petit peu à effectivement envoyer des hommes, mais ça n'a jamais été l'objectif principal.
Mais depuis, on a fait la Station Spatiale Internationale, par exemple. C'est quand même une belle preuve de coopération entre les États.
Oui, de coopération de moins en moins, si vous voyez bien la chose. Évidemment, dans la Station Spatiale Internationale, on a voulu recréer cette espèce de communauté. Mais vous voyez que la Russie, maintenant, ne coopère plus, que la Chine a son propre programme. Oui, en fait, c'est un enjeu pour montrer sa prééminence technologique. C'est une vitrine. Alors évidemment, quand on envoie un satellite, c'est pas tellement visible, ça. Si on envoie une mission avec des hommes dedans, et tout d'un coup, ça donne une visibilité à une civilisation technologique. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de conflit, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. Chacun veut montrer qu'il fait mieux que l'autre.
Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, aujourd'hui, pour le bien de l'humanité, abandonner les recherches autour des techniques spatiales ?
Moi, j'ai un autre point de vue, et l'espace, c'est que moi qui suis astrophysicien, je sais ce que j'ai gagné en allant dans l'espace, pas moi-même, mais en mettant des robots, qui sont des caméras pour enregistrer les images du ciel, qui ont été dans l'espace. Parce que je sais que si j'avais pas été dans l'espace, avec ces robots n'avaient pas été dans l'espace, je n'aurais pas du tout la connaissance du cosmos que nous avons à l'heure actuelle. Donc c'est un des bienfaits de la technique spatiale. Et quand on observe le ciel,
allô,
en mettant des
radiations... Connexion interrompue. Bon bah, je suis toujours coincée ici pour plusieurs mois. Autant profiter de la vue.
Et bravo à Marie et Sian pour ce magnifique radio-reportage qui questionne la pertinence du vol habité dans l'espace. On en parle juste après la pause musicale. Pour l'instant, on s'écoute Life on Mars de David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look. Is there life on Mars?
It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds,
to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall.
Et on vient de s'écouter Life on Mars de David Bowie.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Et vous êtes toujours sur l'Happy Hour scientifique. On est là pour parler de conquête spatiale avec Irénée Regnault. Et juste avant, on s'écoutait un reportage sur la pertinence scientifique d'aller dans l'espace. On a vu que c'était questionnable. Irénée, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pertinence scientifique ?
Bah, excellent reportage, j'ai beaucoup aimé ce dialogue qui dit des choses intéressantes et je pense assez vraies sur l'intérêt du vol habité en particulier. Alors c'est souvent ce qui prend de la place quand on parle du spatial. Et c'est intéressant dans le sens où c'est une critique qui est émise par un scientifique, c'est la critique de la plupart des scientifiques en réalité. Il n'y a jamais eu de la même manière qu'il n'y a pas eu d'unanimisme social sur la conquête de l'espace par l'humain, les scientifiques n'ont pas sauté au plafond quand on leur a promis des laboratoires en orbite dès les années 70. En réalité, l'argument scientifique au début des années 80, de dire on va faire des métaux composites, des cristaux, sauver le cancer, enfin, ça va jusqu'à des titres dans les journaux au début des années 80 qui sont... Un peu malsain en réalité. Mais ça sert à vendre le programme spatial. Ça sert à justifier les budgets des navettes qui coûtent très très cher, etc. Donc ça, c'est une critique intéressante. Et vous écoutez un Thomas Pesquet aujourd'hui, effectivement, il a encore ce genre d'argument. Il parle beaucoup de l'ostéoporose. Non, bon, dans la station spatiale, on ne fait pas de science qui ait des retombées intéressantes pour l'humain. C'est un secret de polychinelle. Tout au plus, on fait de la science qui permet de comprendre comment le corps humain vit dans l'espace pour continuer à l'envoyer. Donc ça, c'est une critique intéressante. Je pense qu'elle est plus intéressante que la critique d'Aurélien Barraud, qui est de la même manière un peu usé sur l'aspect phallique des fusées, ou etc., l'hubris. Enfin, quand on est astrophysicien, on se rend compte, je pense que le deuxième astrophysicien est bien plus pertinent là-dessus, peut-être moins populaire, mais c'est-à-dire, l'espace est utile. Les fusées ressemblent à ce à quoi elles ressemblent. Alors, on peut toujours faire des blagues, voilà, mais bon, à un moment donné, elles sont plus très drôles en réalité, parce que pour des questions physiques, etc. Donc je pense qu'il faut revenir à peut-être une réalité historique qui permet aussi de saisir ce que c'est que l'astronautique. S'il faut lui faire des critiques, on peut faire des critiques à l'astronautique, à Airbus, à Thales, à toutes les sociétés qui travaillent là-dedans, qui sont en crise aujourd'hui, hein, qui perdent des emplois. On vire des gens parce que aussi on perd des marchés, hein, sur notamment le géostationnaire, à cause des concurrents américains, notamment. Donc c'est une industrie qui a besoin aussi de souffle, qui a besoin de projets. Et toute la question qui a été posée dans ce reportage, c'est aussi celle-là. C'est vers quelle représentation de l'espace on va. Le vol habité, c'est quand même pas beaucoup en Europe. Mais bon, si on arrête d'en faire, qu'est-ce qu'on fait à la place, hein, c'est important. Quel est le coût politique de dire j'arrête de faire du vol habité ? En 2022, l'Agence spatiale européenne a recruté 17 astronautes. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ça nous ramène en fait à des périodes historiques aux États-Unis où dans l'après-Apollo, de la même manière, il y a des dizaines d'astronautes qui ont été embauchés souvent pour rien et il y en a même un d'entre eux qui est resté 19 ans sans voler, quoi.
Et est-ce que c'est pas intéressant quand même le vol habité juste uniquement pour... réparer les structures spatiales qui sont où il n'y a pas forcément besoin ou...
Si, c'est enfin Hubble par exemple, il y a eu 5 vols de navettes, je crois. Bon, voilà, vous prenez 5 vols de navettes combinés en termes de prix, vous avez un nouveau Hubble, quoi. Donc, et puis dès qu'on va plus loin, on oublie James Webb télescope qui est beaucoup plus loin, vous n'allez pas envoyer des bonhommes là-bas. Et je pense que ce qui était dit dedans, bon là, un peu. Je pense qu'on a les mêmes idées que ce monsieur. On peut envoyer des sondes, des robots. Il y a un aspect exploratoire aussi qui peut être intéressant. Il y a un aspect aussi qui a lui-même des limites. Si vous prenez les données Hubble, vous avez encore des années et des années de travail, de documentation, des données récoltées par Hubble et encore plus le James Webb télescope. Donc si vous demandez aujourd'hui à beaucoup d'astrophysiciens un petit peu concernés par ces questions de quoi vous avez besoin, vous avez peut-être quelques-uns qui vous disent bah, c'est très bien, moi je veux mettre des gros télescopes derrière la Lune, dans un Starship, parce que plus c'est gros, plus on voit loin. Et puis vous en avez qui vous disent bah, en fait, nous on a juste besoin de plus de doctorants. Donc ouais, c'est ça, une façon tout à fait différente de prendre la question.
De temps déjà à exploiter ce qu'on a déjà en fait en données spatiales.
Et pour continuer à questionner cette pertinence de l'exploration spatiale du vol habité vers l'espace, on écoute un petit extrait.
the United States will once again consider itself a growing nation.
Non.
One that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Et voilà Donald Trump qui, lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2025, affirme vouloir planter le drapeau américain sur la planète rouge, réaffirmant ainsi la volonté états-unienne pour la conquête de Mars, notamment via sa proximité avec Elon Musk, et abandonnant par le même temps le programme Artemis qui visait plutôt à reconquérir la Lune, à renvoyer des humains sur la Lune. Et on peut également citer la nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA, un milliardaire astronaute privé proche d'Elon Musk. Et on a également appris, comme Riné, tu me disais tout à l'heure avant l'émission, que SpaceX avait touché 38 milliards de dollars de contrats et d'aides publiques depuis sa création.
26,
pardon, autant pour moi, merci. Est-ce qu'on peut dire avec tout ça, avec toute cette réélection de Trump, avec Musk qui prend de plus en plus de pouvoir, etc., qu'on est dans une phase, on peut parler d'astrocapitalisme d'État, c'est-à-dire une coopération marchande entre l'État et le capital vers l'assaut spatial, et qu'est-ce que ça signifie toute cette...
Oui, on peut dire ça. Alors j'aurais pas le temps de déplier le concept d'astrocapitalisme puisqu'il a une réflexivité sur le capitalisme lui-même et puis des visées qui sont des visées d'accaparement, en fait, termes. Mais Trump n'est pas tout seul. Hein. Avant lui, Obama, en 2015, avait fait signer un acte, un Space Act, qui déjà laissait la possibilité d'aller s'accaparer des ressources spatiales. Donc, il y a de nombreuses questions juridiques derrière. Et là, effectivement, il y a une relance du programme martien qui était attendue, en fait. Hein. Ça fait longtemps que Musk en parle, qui réveille aussi des architectures de programmes qui sont différentes. Hein. C'est toujours la vieille question, comment aller sur Mars ? Est-ce qu'on passe par la Lune ou est-ce qu'on y va directement ? Par exemple, Zubrin, l'inspirateur de Musk, a toujours dit, il faut y aller directement. Voilà, c'est quoi. Il avait chiffré ça à 50 milliards. En réalité, ça sera beaucoup plus. Mais là, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment ce réveil de tous les mythes. Quoi. Quand on écoute, j'ai beaucoup écouté, réécouté ce passage de Trump avec l'idée d'horizon, on réveille ces questions de frontières, de destinées manifestes, etc. Et puis, il faut voir ce qui se passe après. Par exemple, la fusée SLS, qui était vraiment un élément central du programme Artemis, lancé par Trump lui-même. Hein. C'est Trump qui a lancé le programme de retour.
Oui, en 2017.
Donc, là, il l'abandonne, en réalité. Donc, cette fusée de Boeing pourrait être abandonnée au profit peut-être du Starship. Après, méfiance. Voilà. Moi, si j'ai bien, maintenant, quelque part, un enseignement de ces quelques années passées sur ce sujet... des velléités de conquête de Mars, il y en a déjà eu dans les années 90. Obama lui-même prévoyait en 2035 un voyage autour de, enfin, comment dire, en orbite de Mars. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Nous, on a passé beaucoup de temps à dire avec Arnaud, par exemple, attention Artemis, faut pas parler de la Lune au futur. Hein, faut peut-être mettre du conditionnel. Là, on voit qu'on commence un peu à avoir raison. Donc, on verra ce qui se passe. Aller sur Mars, ça a été dit précédemment par votre chroniqueuse, c'est très loin, ça coûte extrêmement cher, ça n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est offrir une forme de signal. Et puis surtout, c'est des fonds qui vont à un moment donné être appelés à être mis ailleurs. On parle de centaines de milliards. Là, la Lune, Artemis, c'est 93 milliards sur les 12 dernières années, sans compter les moteurs qui sont récupérés des navettes, on peut remonter très loin. Là, Mars, il faut remonter une architecture qui peut coûter des centaines, voire des milliers de milliards. Quelle est l'acceptabilité sociale de ce projet-là ? La question, je pense qu'elle va se poser vraiment à un moment donné.
Il va falloir continuer à travailler du coup à cette acceptabilité avec une astroculture qui va devoir être plus puissante, plus profonde.
Je ne connais pas l'avenir, peut-être qu'ils iront, peut-être que c'est possible.
Tu disais tout à l'heure que Mars, dans la population américaine, c'est pas gagné.
Non,
quoi.
Non, c'est
pas...
dans les sondages, c'est vraiment tout en bas. Dans les sondages, ce qui est important, c'est aussi paradoxal que ce soit, c'est l'environnement, la protection planétaire contre les astéroïdes. Alors c'est, pour le coup, c'est un truc qui est statistiquement très faible, mais c'est dans les sondages, j'y peux rien.
Ce projet d'aller sur Mars, on peut même le remonter un peu plus loin. Il y avait Von Braun, justement, qu'on parlait en début d'émission, qui avait écrit Projet Mars en 1952. Et là, Elon Musk, de plus, avec les récents levées de bras qu'on a pu voir, on voit peut-être un rapprochement idéologique là. Est-ce qu'on pourrait dire que Musk représente l'entrepreneurisation de la vision de Von Braun
Alors c'est, c'est,
conquête spatiale.
C'est une question qui est, c'est un fil sur lequel je marche avec prudence parce que c'est tentant. En plus, même dans ce livre sur Mars de Von Braun, il y a un héros qui s'appelle Elon. Enfin, on peut tirer le fil très très loin.
C'est ça. C'est une coïncidence, je ne crois pas.
Ouais, c'est ça.
Donc, ce qu'on n'a pas fait dans le livre, parce que ce sont des figures qui sont à replacer dans leur contexte historique, blablabla. Il y avait un paradigme Von Braun, effectivement, qui était Terre, Station, Lune, Mars. Voilà. Là, Musk propose plutôt l'idée d'y aller directement. C'est pas fait, hein, le Starship, il atterrit pas encore complètement. Il faut qu'il atterrisse maintenant sur Mars. Et ce sont des personnages, effectivement, qui ont une forme de charisme entrepreneurial qui est comparable. Après, Musk, c'est vraiment Mars ou crève, quoi, comme dit Arnaud, je lui rends sa formule. Mais c'est un entrepreneur absolument terrible. Il y a des mutilations en tout genre et accablantes à l'intérieur de SpaceX ou de toutes les autres entreprises. Un antisyndicalisme qu'on connaît bien. Quand on regarde la vie de Von Braun, c'était une figure qui était plutôt appréciée, en fait. Mais il y avait cette idée quand même de chef, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc on peut créer un dialogue comme ça entre des figures à distance. Et effectivement, maintenant on a l'impression que c'est quand même un peu de nazi. Voilà. Donc ça m'arrive un peu comme vous sur la tête. Bon, pour Musk, enfin, je suis pas du tout surpris. Quand on regarde depuis 20 ans comment il gère ses entreprises, ouais. On se dit que ce type était autoritaire et avec une tendance fasciste dès le début. Donc ça ne fait que couronner le tout. Bon, maintenant, on est passé à un autre stade, donc on l'observe. Et voilà, j'ai pas de boule de cristal.
Merci beaucoup, Irène Regnault, pour ces échanges. On va devoir s'arrêter là pour l'interview. On rappelle que tu es l'auteur de l'ouvrage « L'histoire de la conquête spatiale » aux éditions La Fabrique, sorti en 2024 avec Arnaud Saint-Martin. Et pour conclure cette émission, on retrouve Chiara pour un Caps ou pas Caps.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Hello à tous et à toutes pour une deuxième chronique dans cette émission. Donc on vient de parler à quel point c'était le bordel politiquement. Et du coup, je vous propose un petit peu plus de fun pour terminer cette
Super.
Émission. Donc, je vais être obligée de faire les blagues que vous allez juger de bon ou mauvais goût écrites non pas par moi, mais par Alice Carliez.
Mmh. Donc, on lui rend hommage.
Exactement. Donc, avec le bordel astronomique de l'actualité de ces derniers mois, j'ai l'impression que la bonne humeur des gens s'est éclipsée, que les gens sont mal lunés. Voilà, je l'ai dit, Alice. Tu pourras pas dire que je l'ai pas dit. Donc, pour terminer cette émission, je vous propose un petit quiz, une sorte de qui est-ce intergalactique. Chaque réponse vaut un point et la personne avec le plus de points sera nommée maître ou maîtresse de l'univers. Est-ce que ça vous
Rien
tente
que ça. Putain, c'est parti,
c'est beau.
Ok, donc ma première question c'est qui suis-je donc ? Nous combattons de nombreux méchants, entre autres le maître de l'évolution. Nous sommes Peter Quill, Gamora, Rocket ou encore Groot.
Gardiens de la galaxie.
Les gardiens de la galaxie, c'est une bonne réponse.
C'est fort.
Question numéro 2. Je me trouve à environ 26 673 années-lumière du système solaire. Avec mes 4,3 millions de masses solaires, on dit que je suis super massif. Je suis très très
noir.
Gros. Non. Je continue. Je suis très très gros et j'engloutis tout sur mon passage. Même si je suis connu de beaucoup, les gens ne m'ont vu pour la première fois qu'en 2022. Je me trouve au centre d'une magnifique galaxie spirale qu'on appelle Voie lactée. Ah, on me surnomme aussi SGR A étoile.
Sagittarius A étoile.
C'est une très trop bonne fort. Réponse.
Bah, oui, trou noir centre de la Voie lactée.
Ok, alors question numéro 3. Donc pour l'instant, un point pour Irénée, un point pour Sacha. Alors, question numéro 3, nous nous appelons Ethno, Gorgeous, Bud, Candy et Stéréo. Nous cherchons par tous les moyens à rentrer sur notre planète Sigma B. Coincés sur Terre, nous avons trouvé refuge dans une maison terrienne à louer. À chaque épisode, nous déguisons... C'était effectivement les enfants de l'espace.
0,5.
Qui c'est qui a répondu?
PA, Irénée en même temps.
Ok, allez, on donne à PA et Luna, comme ça tout le monde repart à égalité.
0,33 chacun.
0,33333.
Très bonne astroculture. Hein.
Question numéro 4. Je suis un néologisme proposé en 1968 par l'astronome britannique Anthony Hewish, qui sera d'ailleurs nobélisé en 1974 pour m'avoir découvert avec Jocelyn Bell. Je peux être qualifié de binaire, radio, millisecondes, recyclé, magnétar ou encore X, et non pas... voilà.
Les pulsars.
C'est un pulsar, effectivement. Oh, oui.
J'ai vu une pièce de théâtre sur Jocelyn Bell il n'y a pas longtemps qui était super, je vous la recommande.
Quelle astroculture, encore une fois.
Voilà.
Incroyable.
Tu mènes le jeu.
Alors, une autre question. Je suis très petit, vous ne me trouverez pas chez votre glacier, pourtant je peux avoir trois saveurs, électronique, muonique ou totique. Grande star du télescope KM3NE
T. Je suis une particule mystérieuse dont le record a été détecté le 12 février dernier, avec une énergie de 220 millions de milliards d'électrons-volts, ou encore 220 pétaélectrons-volts.
Les muons ?
Non, mais c'est une autre particule.
T'as dit que c'était muonique ?
C'est électronique, muonique ou totique.
Je suis.
Non, ce n'est pas un boson.
Lepton.
Je suis un neutrino.
Un neutrino.
Oui, bien sûr. Bah
oui, je suis un neutrino. Alors, j'en ai deux autres pour vous. Et je pense qu'on a le temps pour deux autres.
Encore une, vas-y.
Allez, une. J'ai été lancé pour la première fois en 1984. Je mesure en moyenne 4,18 mètres de longueur. À vide, je pèse 1195 kilos. Avec mes 5 portes et mes 5 sièges, je peux véhiculer une famille monoparentale avec 3 enfants et un labrador en tout confort.
Est-ce qu'on n'est pas sur une Tesla ?
Voiture phare de l'industrie automobile française.
Ah non, c'est un Scénic.
Je porte également le nom d'un chanteur alcoolique célèbre.
Renault.
C'est une Renault Espace. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Une dernière ou faut arrêter ?
Il faut arrêter là. Mais ah, merci beaucoup, c'était super bien.
Qui c'est qui est maître de l'univers ?
Je crois que c'est Sacha.
C'est moi.
Sacha Citerne est donc maître de l'univers.
Voilà, prends ça, Elon Musk.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Malheureusement, c'est la fin de la Fiaboire scientifique pour aujourd'hui. Merci à notre invité Irène Irénio. Merci à toute la team de la Fiaboire d'aujourd'hui. Merci à Luna, merci à Chiara, à Sacha, à Marie et Sian pour leur super radio-reportage, à Joey, à la Réal. Et quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de la Fiaboire scientifique le jeudi 27 mars. D'ici là, suivez-nous sur Instagram @hhscientifique et écoutez-nous sur plateforme de streaming favorite et à la prochaine.
Merci à toi, Père.
Au revoir.
Merci. Salut.
Bon, bah, il y a mes cheveux, hein. À la prochaine et au revoir. Et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.